c'est un impact très fort, puisque faut savoir se positionner si on est vraiment le conjoint ou si on est infirmier, quoi. C'est très très dur, puisque normalement, dans un couple, mari n'assiste pas à son épouse. On a plus l'impression d'être plutôt un infirmier ou un soignant. Le couple ne vit plus du tout de la même façon.
Aider, s'entraider. Le podcast qui donne la parole aux aidants. Les aidants représentent en France plus de 9 millions de personnes. Ce sont des hommes et des femmes qui soutiennent quotidiennement un proche en perte d'autonomie, en situation de handicap ou de maladie. Aider, s'entraider, un podcast proposé par Malakoff Humanis en partenariat avec Audencia. Jean-Jacques est un retraité nantais. Âgé de 68 ans, il soutient quotidiennement sa femme atteinte d'une maladie neuromusculaire évolutive.
Quand on s'est mis ensemble, elle marchait encore et petit à petit, elle a perdu la marche et elle a perdu plein d'autres choses. Et aujourd'hui, elle est en fauteuil avec une trachéotomie et elle ne peut plus rien faire. Donc il y a principalement depuis, je dirais, peut-être 15 ans que je me sens vraiment aidant. Avant, j'aidais, mais pour moi, c'était pas vraiment aidant dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui. Malgré son handicap, il y a au tout début qu'on était ensemble, il y a beaucoup de choses qu'elle pouvait faire par elle-même, puisqu'elle pouvait aussi bien se maquiller, se démaquiller, manger toute seule, qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus ça du tout, quoi. Les premières années de notre vie, on les a séparées, on les a vécues plutôt bien, malgré avec certaines difficultés liées au handicap, mais comme je disais, je me sentais moins aidant dans la mesure qu'elle pouvait faire sa toilette quasiment toute seule, et puis elle pouvait se laver les dents toute seule, enfin toutes plein de choses de la vie, manger toute seule. Et après, effectivement, vu son handicap, cela a baissé un peu au fur et à mesure, mais on a toujours essayé de pallier. Quand c'est devenu trop important, on a mis en place un service d'infirmière qui venait pour faire sa toilette le matin, puisqu'elle ne pouvait plus la faire, et qui faisait le transfert au fauteuil. Et donc, ça a duré pendant des années, puisqu'une fois au fauteuil, elle pouvait se déplacer facilement dans la maison, elle pouvait encore pallier, se laver les dents toute seule, et quoi que ce soit, et simplement avec la présence de quelqu'un à la maison qui, simplement, c'était plutôt une aide qu'un aidant, si vous voulez. C'était pour lui faciliter simplement les tâches de la vie, quoi. Et où je me suis vraiment senti aidant, c'est quand vraiment ça a pris des proportions plus importantes. Surtout quand qu'on a commencé à la faire manger moi-même, si vous voulez, quoi. C'est là que je me suis vraiment senti dans le rôle d'un aidant, quoi. Malgré qu'avant, ça avait commencé par plein d'autres choses, si vous voulez. Mais bon. Elle avait toujours plus ou moins besoin d'aide pour pouvoir se déshabiller et puis se mettre au lit, mais c'était tellement comme ça depuis X années que je me sentais pas vraiment dans le rôle d'aidant, si vous voulez. C'est vraiment en faisant les tâches courantes de la vie, manger, se laver les dents, puisqu'elle ne pouvait plus rien faire dans les gestes pour la toilette, quoi. Dans l'année qu'elle a une trachéotomie, si vous voulez, la nuit, on ne peut pas dire que je dors. le sommeil est très perturbé, parce qu'au moindre bruit, je me réveille. C'est savoir si elle ne, par des sécrétions, ne va pas s'étouffer ou quoi que ce soit. Si vous voulez, toujours, je dors, mais je somnole plutôt que dormir. Vous voyez. C'est plutôt ça. Tandis que quand il y a des auxiliaires qui sont là, moi, je vaque à des occupations ou j'en profite pour aller à l'extérieur faire des courses ou faire une activité pour. Je pensais à autre chose. Tandis que quand je suis tout seul comme avec elle, je suis toujours en veille, quoi, pour ne pas qu'il n'arrive quelque chose. J'ai fait des dépressions, effectivement. Mais maintenant, ça y est, je crois que j'ai réussi à remonter tout ça en acceptant qu'il y ait de plus en plus d'aide à domicile. Et sinon, si on le si on gère tout seul à 100%, on tombe très très vite dans la fatigue et puis dans le on voit que du noir quoi autour de soi quoi. J'avais consulté un psychiatre et c'était le mal qui me rongeait à cette époque-là quoi. Puisque comme c'est une maladie évolutive, j'ai toujours une aggravation quelque part et que je le supportais très très mal. Solution, il m'avait proposé de la mettre dans un centre. Quoi. C'est une chose que je n'envisage pas, puisque mon épouse, elle parle normalement, elle discute normalement, il n'y a aucune agressivité, si vous voulez. Et elle ne souffre pas physiquement. Entre nous, il y a de la communication possible. Et je crois que c'est très important de pouvoir qu'elle puisse s'exprimer et me dire ce qui ne va pas, ou moi-même lui dire ce qui ne va pas, et puis essayer d'en parler ensemble pour trouver des solutions. Tout le temps que j'ai travaillé, ça s'est relativement bien passé, parce qu'il y a le lien social qu'il a de l'extérieur, et j'avais beaucoup de choses, entre guillemets, à raconter quand j'arrivais le soir, parce que j'étais parti à la journée, donc quand je rentrais l'après-midi ou bien le soir. Mais du jour de la retraite, c'est complètement différent, puisque au jour de la retraite, au tout début, il n'y avait pas autant d'heures qu'au jour d'aujourd'hui, et j'ai passé beaucoup plus de temps auprès de mon épouse. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais plutôt. Je me sentais plus infirmier ou médicalisé que mari, quoi. Il a fallu accepter toutes ces aggravations ultimes, puisque passer à la trachéo, c'est quand même autre chose, puisque ça complique beaucoup, beaucoup la vie, puisque du coup. Autant qu'auparavant, on pouvait se déplacer assez facilement, même rester couché chez des amis, mais à partir de maintenant, si vous voulez, ce n'est plus envisageable, puisqu'il faut toujours, quand on part de la maison, emmener au minimum, si on part pour rester chez quelqu'un, on est obligé d'emmener deux respirateurs, quand il y en a un qui tombe en panne, et beaucoup de choses que je vous passe, quoi, pour les soins, quoi que ce soit. Je dirais que maintenant, on a eu la chance, qu'elle a été reconnue par le département et qu'elle a une PCH très importante et on a pu en mettre en place des aides. Donc moi j'ai forcément encore ce rôle d'aidant puisqu'on n'est pas aidé 24/24, mais je prends en charge quasiment à partir du soir et puis le week-end. Mais c'est pas pareil que si je devais le faire tous les jours et 24/24 quoi. J'ai quand même, grâce à des auxiliaires de vie qu'on a mis en place depuis maintenant 5-6 ans, j'ai quand même du temps à moi. Quoi. J'avais la chance donc que mon épouse était bien connue au sein de l'entreprise où j'étais. Puis j'ai travaillé au service des transports des handicapés de la ville de Nantes, donc ils étaient assez sensibles. Et donc quand je rencontrais des problèmes avec mon épouse ou qu'il fallait me libérer, je n'ai jamais rencontré de difficultés, si vous voulez. Et je dirais même que je n'ai jamais voulu cesser complètement mon travail afin de pouvoir me libérer l'esprit en allant au travail. C'est très important de garder un lien social avec l'extérieur. Nous, tout ça, ça a pu se permettre parce que... Alors, ça dépend des handicaps, je le sais très bien, mais on a eu la chance que mon épouse, elle a toujours été bien reconnue par la MDPH et le handicap était très bien pris en charge.
Depuis le début de l'année, Jean-Jacques recrute en direct les prestataires à domicile qui interviennent auprès de son épouse, une contrainte qui ajoute une charge dans son quotidien.
On rencontrera des problèmes, c'est sûr, parce que ce qu'il dit en emploi direct, quand la personne sera en vacances, ça ne sera pas remplacé. Mais au jour d'aujourd'hui, dans les services de prestataires, c'est pareil. Ils ne peuvent pas remplacer leur personnel quand il est malade ou quand il est en vacances. J'ai eu le cas au mois de septembre. Les auxiliaires de vie étaient en vacances, et ben pendant ces vacances, c'est moi qui les remplaçais. Ben l'impact qu'il y a sur c'est qu'on ne peut plus prendre de rendez-vous pour soi-même. On ne peut plus d'abord, si on a des activités sociales extérieures, on ne peut plus les avoir. Et on ne peut plus même pas aller à ces rendez-vous de médecins ou ces rendez-vous tout autre. Puisque moi, je m'organise toujours pour prendre tous mes rendez-vous le matin, quand je sais qu'il y a quelqu'un qui est à la maison. Au fil des années, nous mettons en place de plus en plus d'heures pour s'occuper d'elle. D'abord parce que je suis vieillissant et puis physiquement, je n'ai plus la force que j'avais quand j'avais 30 ou 40 ans et que je suis obligé de faire appel à des services extérieurs. J'ai très mal au dos et puis là, je sors d'une sciatique qui a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à se résorber. Et je sais très bien qu'un monoche, ça n'ira pas en s'arrangeant. On n'a pas la même force à 40 ans qu'on a à 68 ans que ce que j'ai, quoi.
Nathalie Keber est présidente de la Fédération française des plateformes de répit. Elle est également directrice des plateformes d'accompagnement et de répit des aidants familiaux de Lille, Roubaix et Marquise. Elle détaille les enjeux du répit pour les aidants.
C'est, j'ai presque envie de dire, la condition sine qua non pour ne pas s'épuiser. Que ce soit de manière ponctuelle avec une activité, l'idée c'est de rééquilibrer ce rôle d'aidant. On voit des aidants pour qui être aidant, c'est devenu une identité. Ils ne sont plus personne d'autre qu'un aidant parce qu'ils sont engouffrés dans cette mission et au détriment de leur vie sociale, de leur sortie, de leur santé, ils ne font plus que d'être aidant. La difficulté, quand on n'est plus que aidant, entre guillemets, et c'est beaucoup, attention, hein, c'est pas péjoratif quand je dis ça, quand on n'est plus que aidant, c'est que si le proche n'est plus là, eh ben, on n'est plus grand-chose, puisqu'on n'a plus de liens sociaux, on n'est plus mari, femme, enfant, parent, professionnel, on a perdu ses relations sociales, on n'a plus d'activité, de loisirs ou professionnel, parfois, et là, c'est nous, ce qu'on vise, c'est de refaire cet équilibre, de passer du rôle de l'identité d'aidant à un rôle d'aidant parmi tant d'autres, hein, où on garde sa vie professionnelle, où on garde ses loisirs, si on peut, hein, où on garde sa vie sociale et de trouver l'équilibre pour rester aidant le plus longtemps possible.
Connaître et faire connaître les différentes formes de répit et les lieux et structures qui permettent d'y accéder, un défi auquel la Fédération des plateformes de répit est confrontée. Le défaut d'information reste le premier obstacle auprès des professionnels et donc des aidants eux-mêmes. La Fédération des plateformes de répit a alors créé le site www.soutenirlesaidants.fr.
Venir jusqu'à nous, c'est compliqué. Il faut déjà qu'on réussisse à se reconnaître comme aidant. À partir de quel matin on va se lever et on n'est plus seulement le conjoint, le parent ou l'enfant de quelqu'un qui perd son autonomie. Ça commence quand? À partir de quel acte? À quelle durée? On n'en sait rien, c'est très flou ça. Hein, y a des gens qui vont très vite se sentir aidants, d'autres pas du tout, c'est parce qu'ils sont mariés pour le meilleur et pour le pire, parce que c'est les parents qu'il faut aider, parce que c'est leurs enfants et que c'est normal, et bien voilà, donc il y a toute cette période-là. Une fois qu'on s'est reconnu comme aidant, il faut accepter d'avoir des limites et puis de se dire, bah peut-être que j'arriverai pas à tenir le coup toute seule jusqu'au bout, et peut-être que je devrais aller voir des professionnels. Donc ça prend aussi un peu de temps d'accepter l'idée. Quand on est OK avec l'idée, il faut dire, mais ils sont où ces professionnels? Qu'est-ce qui s'occupe des aidants en France? Il faut trouver les coordonnées. Et puis, dernière étape, et pas des moindres, c'est d'accepter de franchir la porte de professionnels pour aller dire qu'on ne supporte plus son proche, qu'on ne sait plus comment faire, qu'on n'en peut plus à des professionnels qu'on n'a jamais vus. Eh bien, quand on se met à la place de l'aidant, dire c'est super courageux de venir jusqu'à nous. Et bien souvent, ils vont retarder ce moment-là jusqu'au moment où ils n'en peuvent vraiment plus. On a une aidante qui nous a dit un jour qu'elle est passée 6 mois devant la porte avant d'oser rentrer. Elle le faisait régulièrement, mais elle n'arrivait pas à rentrer. Elle n'arrivait pas à dire que ça allait pas. Mais pourquoi? Pourquoi la société jugerait à ce point le fait d'être aidant et on le voit chez les aidants salariés, très très peu vont se confier à leur employeur en disant « je suis aidant ». Le rôle d'aidant, c'est quand même le seul rôle que je connaisse qu'il est possible de pratiquer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, potentiellement pendant des années. Et on demande aux gens de tenir le coup dans la durée. Mais qui peut faire ça? Mais qui peut faire ça sans souffler? Cette notion de répit, elle est fondamentale parce que si l'aidant s'autorise à prendre du répit régulièrement en amont de l'épuisement, eh bien, il va tenir le coup, entre guillemets, le plus longtemps possible. Avec cette prise de recul, il ne va pas s'engouffrer dans cette relation devenue fusionnelle et épuisante. Ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est le fait de déculpabiliser l'aidant, à prendre du temps pour lui, c'est un sacré gap à passer. Et ça, on l'a vu au démarrage de la création des plateformes de répit. On construisait une offre de service avec des tas d'activités et en fait, les aidants, ils ne venaient pas. Ils se saisissaient pas de ça parce que y avait ils avaient pas le droit de profiter, ils n'étaient pas malades, il fallait donner toute l'attention aux proches, il fallait être là, on est marié pour le meilleur et pour le pire, c'est son boulot et c'est son devoir, il faut absolument assurer quoi, et aux yeux de la société, comme on est membre proche de la personne, eh bien, il faut assurer, quoi. On n'a pas le droit de lâcher. Et ça, c'est compliqué. C'est une pression sociale terrible. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu un spot publicitaire qui dit, eh ben, écoutez, vous êtes aidant, il y a des professionnels et des structures pour vous accueillir. Eh bien, allez-y, c'est juste normal d'être fatigué. C'est juste normal. Ça, il n'y a personne qui le dit à 11 millions de personnes.
Aider, s'entraider, un podcast proposé par Malakoff Humanis en partenariat avec Audencia. Retrouvez d'autres épisodes sur les plateformes de podcast.